et les Pays-Bas. Le Danemark qui surprend le Portugal 1-0. Place à notre super sub Ron Gomez qui entre en jeu pour rappel sur la
queue. Merci Martin Guez. Bonne journée à vous. Restez avec nous. Les 8h10 en temps universel et dans 30 secondes.
Radio G. 101.5 FM.
Venu d'ailleurs, la nouvelle émission sportive, mais pas que, de Radio G. Animée par Valentin Dedon pour l'association La Dalle Angevine. À retrouver un vendredi sur deux à 9h10 sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Une conversation intime avec un ou une invitée venue d'ailleurs et qui vit aujourd'hui sa passion pour le sport à Angers. Alors à très vite dans Venu d'ailleurs sur Radio G.
Venu d'ailleurs, c'est un podcast pensé pour vous faire découvrir des personnalités, actrices et acteurs de la vie sportive angevine, et qui possèdent toutes et tous ce très beau point commun. Elles ou ils sont nés dans un pays qui n'est pas la France, dans un ailleurs qui déclenche une curiosité, comme une invitation au voyage, un voyage humain. Alors nous allons les accueillir et les questionner, sur leur terre natale, sur leur rencontre avec le sport là-bas, sur le chemin qui les a conduits jusqu'ici, à Angers, et sur le rôle qu'ils ou elles occupent aujourd'hui dans le paysage sportif local.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Venu d'ailleurs, l'émission que vous écoutez à votre guise, un vendredi sur deux à 9h10 sur Radio G, en replay sur radio-g.fr ou en podcast sur le site de l'association La Dalle Angevine, qui aime vous parler de sport à sa manière. Alors on accueille aujourd'hui dans le studio Marc Truong, 70 ans, qui est le président du Shawa Taiku Taidokan et qui est le pionnier du Taido en France. On va découvrir avec lui cette discipline. Bonjour Marc et bienvenue dans Venu d'ailleurs. Première question rituelle de cette émission, dans quel pays, dans quelle ville vous êtes né?
Je suis né au Cambodge, je suis d'origine chinoise.
Alors dans quelle ville au Cambodge vous êtes né?
À Phnom Penh.
Donc la capitale,
capitale
pays.
Oui.
Racontez-nous un petit peu votre enfance dans ce pays, la réalité de ces moments-là dans les années 60-70.
J'étais à l'école française. Donc c'est grâce à mon papa. Papa c'est un professeur français. Donc les enfants, on voyait tout vers la langue étrangère, français, là-bas.
Donc très tôt vous avez appris la langue française.
La langue française, voilà. Merci les parents, c'est grâce à eux quoi.
Donc dans l'école française, comment ça se passait
Ça passe très bien. Comme tous les jeunes, hein, des fois chercher des cours. Voilà, quand on est des jeunes, hein, on fait toujours un peu de bêtises, mais en grandissant, ça va.
C'est quoi vos souvenirs un petit peu de l'école ou de la capitale, de la ville, du quartier, de votre enfance un petit peu?
Un peu de tout, et ça c'est nostalgie. Maintenant, aujourd'hui, je pense que Phnom Penh, c'est une capitale, une très belle capitale. Il y a beaucoup de choses à visiter, il y a beaucoup des Français aussi. Et moi, j'ai vécu à l'époque au lycée avec des professeurs français. Tout ça, ça m'a donné envie de venir en France.
Il y avait le goût de la France, la langue, l'envie de découvrir.
Exactement.
Ce pays.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, malheureusement, il y a la guerre qui est arrivée en 1972-73. Ça commence à aggraver de petit à petit, quoi. Et je suis parti quitter mon pays en 1974.
Alors, on va en parler un petit peu de cette situation, parce que c'est vrai que ça appartient, c'est une tragédie qui appartient à l'histoire du pays, du Cambodge. Comment vous avez vécu, vous, cette guerre? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la structure des événements qui se sont passés dans ce pays?
Avant la guerre, c'est bien, ce pays-là. Comme on dit, il n'y a pas de problème. Mais après pendant la guerre, c'est là que j'ai vécu les choses affreuses, quoi. Je vais à l'école en vélo, en Solex, vélo Solex, tout ça. Et on entend les roquettes qui passent dessus la tête. Et derrière mon école, mon lycée, ça s'appelle lycée Descartes. C'est le lycée français. Il y a uniquement le lycée qui est à 1 km de l'ambassade de France. Voilà. Et derrière ce lycée-là, c'est les radios, quoi. Radio locale, radio capitale. Et il a toujours reçu les roquettes, les bombardements, quoi. Petit à petit, le professeur français n'ose plus rester, il s'en va. Et on n'a plus professeur, plus rien, quoi.
Ah, donc il n'y avait plus aussi d'accueil à l'école, plus de cours, tout le monde fuyait un petit peu la situation. Donc c'est un dictateur, c'est ça, Pol Pot, qui est responsable un petit peu de cette situation.
Oui.
Donc suite à cette réalité de cette guerre, dans les années 70, vous avez 15, 20 ans, comment ça se passe, la possibilité de fuir, de partir, de fuir cette guerre?
Bon, pour dire fuyer, oui, c'est pas le mot, parce que j'ai un grand frère qui est arrivé en France avant moi, et grâce à lui, donc, il m'a hébergé à Paris, donc j'ai resté avec lui pendant un an, quoi.
Comment ça s'est fait, le départ, le voyage? Comment ça a été possible de partir?
En fait, je suis allé à l'école, je raconte des histoires. J'avais 18 ans, tu vas à l'école en Solex un matin, c'est dans tous les carrefours, il y a les polices militaires, partout. Et ils voient un jeune garçon, surtout garçon, pas les filles, garçon, à peu près 1m60-65, ça y est, il s'est arrêté, il fait arrêter, et puis il embarque dans le camion militaire.
Pour aller faire la guerre, pour devenir soldat.
Parce qu'il manque
pour la dictature.
Voilà. Il manque les soldats dans la première ligne. Voilà. Et je suis, j'ai fait ramasser. Donc, le soir, je suis pas rentré. Les parents s'inquiètent. Donc, grâce à la famille, côté maman, un oncle qui était médecin, militaire. Donc, il a téléphoné à tonton. Et tonton, tout de suite, mon nom, tout ça, il va interroger ou dans quel quartier il m'a ramassé, tout ça. Donc, le lendemain, ils sortent.
Vous avez réussi à sortir, du coup?
Ouais, il m'a fait sortir tout de suite, quoi. J'ai vraiment la chance, quoi.
Ouais, il a prétexté peut-être un problème de santé.
Je suis avec plein de jeunes autour de moi. Ils ne comprennent pas, ils disent que t'as la chance.
Beaucoup n'ont pas eu le choix et n'ont pas eu cette chance que vous avez eue.
Il déjà préparait, distribuait les vêtements, le treillis militaire. Les treillis à chacun, ça les jeunes, et donne comment ça s'appelle, M16. C'était
une arme.
L'arme américaine. Quatre cartouches, quatre grenades, il en montre comment dégoupiller, etc., comment charger le cartouche.
C'était une formation sommaire.
Très rapide. Parce qu'il a besoin, les jeunes, pour aller se défendre le pays, quoi.
Ouais, c'était partir un peu à la mort.
Alors, c'est l'époque de Lonol, le général Lonol. C'est républicain, celui-là. Et il a détrôné le royaliste. C'est le prince Sihanou.
Ça, c'est les enjeux un peu politiques de la guerre.
Ouais. Il profite, le prince Sihanou visité en France et l'a détrôné, quoi. Parce qu'il y a soutien par derrière, par les Américains.
Une fois que vous êtes sorti de cette caserne dans laquelle on vous avait embarqué, il y a l'idée tout de suite de partir du pays, quoi, de rejoindre votre frère qui était déjà parti, d'essayer de le faire, en tout cas.
J'ai déjà fait les études, la langue française. Mon père l'a dit, il faut partir en France.
Là, vous avez 18 ans à cette époque-là.
Oui.
Comment vous réussissez à partir?
Je fais les passeports, tout ça, grâce à mon oncle. C'est pareil, c'est là-bas, c'est les pays de guerre. Il faut faire sortir avec, il faut faire signer le visa sorti et par les gouvernements. Ministre, tout ça, quoi. Pour connaître tout ça, donc mon oncle le connaît. Donc il donne un petit cadeau, fait sortir, fait signer, et puis avec ça, 3 jours après, moi je suis prêt, parti, quoi. Il faut aller très vite.
Très vite.
Très, très vite. Même mon oncle m'accompagne jusqu'à la porte de l'avion.
Pour être sûr.
Ouais, pour être sûr. Et que l'escalier de l'avion, il décolle, il est détaché. Fermer Hublot, ça s'appelle, la sortie de secours, il a fermé, là, il descend, et après, il est assuré, quoi. Sinon, il y a toujours les soldats, ils l'attendent devant l'escalier, encore, avant de monter l'avion.
Ah oui.
Ouais, pour ramasser encore les jeunes. Il sait bien que les jeunes, ils fuient.
Vous m'avez dit que vous aviez dû mentir sur votre âge aussi, par exemple, pour partir à un moment?
Voilà, parce que je suis parti vers l'âge de 17 ans et demi, par là. En fait, c'est j'ai pris l'acte de naissance de mon petit frère à cette époque-là. Autrement, mon vrai âge pour partir, c'est 23 ans.
Ah, donc c'était un départ dans des conditions très particulières, ouais. Abruptes, très rapides.
Très rapide.
Vous avez revu ensuite votre famille, vos parents.
J'ai même pas le temps d'avoir grand-chose. Je suis arrivé là-bas. Quand j'ai quitté mon pays là-bas, c'était le mois de juin, je me rappelle, c'est le 16 juin que je suis parti. Il faisait 45 degrés là-bas. Et moi, je suis arrivé à Roissy, il faisait 16 degrés. Une température phénoménale. Et moi, je tremble. Dans l'avion, j'ai tremblé.
Voilà. Ouais, vous trembliez pour différentes raisons, j'imagine.
Ouais.
Alors, on reviendra un petit peu sur ce nouveau point de départ, cette nouvelle vie qui vous attend du coup en France à ce moment-là. J'aimerais revenir un petit peu dans votre enfance sur le lien au sport, aux arts martiaux, on va en parler après, il y a le taïdo qui est très présent dans votre vie. Quel enfant vous étiez par rapport au sport? Est-ce que vous avez commencé très tôt les arts martiaux au Cambodge?
Voilà. Quand j'étais jeune, je suis très, très actif. Je suis très fort en sport. Je saute en hauteur, c'est moi le champion de lycée. Ouais. Très, très haut, je saute très haut, la détente, tout ça. Et puis, je fais beaucoup de choses. Je fais du kung-fu, je fais le taekwondo, avec le boxe-thaï, tout ça.
Ça vous plaisait, tous les arts martiaux. Très actifs, arts martiaux, le combat, je pense qu'on peut dire ça.
Enfin, à la fin, je suis tombé amoureux sur un maître japonais qui a enseigné le karaté. Et l'époque, c'est l'époque de Bruce Lee. Il est arrivé en même temps. Et là, le karaté là-bas, très connu aussi, il nous montrait comment on fait la casse, etc. C'est là que j'ai commencé à aimer. J'ai suivi ce japonais, un grand maître aussi.
Donc ça, c'était encore au Cambodge.
Voilà, à l'époque. Moi, j'avais quoi 17 ans. J'ai suivi pendant 3-5 ans comme ça. Voilà.
Ouais, d'accord, donc là vous avez vraiment suivi l'éducation, la formation d'un grand maître karaté pour apprendre la discipline.
Voilà, et après je suis parti en France, je suis arrivé en France, donc j'ai perdu la relation, le maître. Et grâce à, je suis arrivé 2 ans après, je suis arrivé, première année c'était à Paris. Et à Paris, j'ai vécu pendant 1 an, c'est épouvantable la vie de Parisien. Métro, dodo, boulot, quoi, tout ça, ça fatigue. Voilà. Tant pis, grâce à un monsieur qui est bien gentil, un Français qui s'occupe des réfugiés politiques à l'époque, par le gouvernement de Giscard d'Estaing, le président. Donc, je suis arrivé à Angers.
Donc vous êtes arrivé avec le statut de réfugié politique et
avec le groupe de réfugiés.
On vous a installé à Angers. Vous n'avez pas eu forcément le choix.
Donc je commence à faire la cueillette des pommes. Comme je connais pas.
D'accord, la cueillette des pommes.
Là-bas au Cambodge, il n'existe pas le pommier. Je suis très curieux le pomme. Je vois le pommier comme...
C'est un fruit que vous ne connaissiez pas.
Oui, ça c'est, on dit souvent le proverbe français, les curiosités, c'est la vilaine défaut.
C'est une grande qualité aussi d'être curieux des choses.
Oui,
et des
voilà.
Gens.
Voilà, cueillir des pommes, c'est là que je tombais amoureux. Une Française, c'est comme Adam et Ève croquaient une pomme.
Donc vous avez, pendant un de vos premiers travails d'aller cueillir les pommes, vous êtes tombé amoureux d'une cueilleuse de pommes.
On était jeunes et puis voilà, Et puis voilà, après, vécu quand même vingtaine d'années, quoi.
Ah, donc l'histoire d'amour globale avec la France, avec une Française, avec Angers. Et donc ça, c'était en 1975-76, c'est ça?
76.
Ouais. Donc vous êtes resté à Angers. Vous êtes. Ouais. C'est un lieu maintenant qui compte beaucoup. Vous vous êtes senti bien? Qu'est-ce que comment vous vous sentez dans cette ville?
Ben comme j'ai vécu avec une Française, j'ai fait des enfants. Après on est mariés et puis voilà, j'ai attaché donc cette région. Donc j'ai pu rester longtemps, puis je trouve cette région, ça c'est bien, pas mal quoi. Angers, c'est en douce angevine, c'est vrai qu'on a vécu les choses pas comme les autres régions, c'est pour dire que les Angevins, ils ont la chance, on peut dire ça, par rapport aux autres provinces quoi.
Y a une atmosphère, une sérénité, un apaisement ici.
Voilà.
Donc Angers, et puis il y a un autre mot qui est important dans votre vie, c'est le taïdo. Donc on a parlé de votre rencontre avec le karaté. Et puis une des branches, une des disciplines du karaté, vous m'arrêtez si je me trompe, si j'exprime mal, je suis très néophyte en la matière, mais une des branches, une des déclinaisons du karaté, c'est le taïdo, dont vous êtes un maître, un pionnier, un précurseur en France. Vous avez importé le taïdo, vous avez créé un club, le seul club en France qui enseigne cette discipline. Racontez-nous un petit peu cette rencontre avec le taïdo, cette histoire.
Alors, mon histoire, c'est que j'ai pratiqué le karaté, comme j'ai dit, au Cambodge, avec un maître japonais. Et le grand maître, je ne connais pas. Et comme je suis arrivé en France, et surtout arrivé à Angers, après vécu pendant un ou deux ans à Angers, dans le... l'appartement studio, tout ça, avec ma femme. Et en face de mon appartement, il y a un étudiant japonais. Donc, on se sympathisait. Et puis, grâce à cet étudiant japonais-là, j'ai parlé avec lui. Vous connaissez cette école karaté qui s'appelle ça, Taïdo. Je connais pas, mais karaté, je connais. Mais je peux demander à mon père. Donc, il a envoyé un courrier à son papa au Japon. Et c'est là que son père il a trouvé l'adresse de siège social de Taïdo. Voilà. Et puis, grâce à ça, j'ai écrit la lettre pour communiquer avec
le maître japonais.
Le grand maître, là-bas. Le plus haut encore. C'est parce que le maître, je ne sais plus où il est, quoi. J'ai perdu la liaison, le contact.
Donc le grand maître, vous avez communiqué avec lui, vous avez échangé par courrier.
Par courrier, tout ça.
D'accord.
Et après, il faut venir, je vais vous former.
Donc vous êtes allé au Japon?
Je suis allé au Japon 5 fois. Ouais. Après, tous les... première année, je suis allé, j'ai resté 5-6 semaines uniquement avec lui, avec 2 maîtres assistants, et avec lui dans son chalet en face de Fujiyama.
Fujisan.
Ouais. Voilà, c'est tous les matins entraînement, c'est très dur. Très, très dur.
Ah, une formation très exigeante.
Ah oui, c'est très dur. Je savais déjà, j'ai déjà préparé à Angers. J'ai fait du footing, j'ai fait du physique, tout ça. Par de la garenne, j'ai couru pieds nus, tout ça. Et j'ai fait rouspéter par mon médecin. Il dit, vous n'avez pas peur de tétanos, tout ça. Il dit, non, je sens rien du tout dans mon pied.
Ah ouais, des conditions extrêmes pour préparer au stage, voilà. Qui a été fidèle à ce que vous attendiez.
Je m'en doutais déjà, là-bas, il va se faire un entraînement. C'était comme on voyait dans le film, le Karate Kid. Le grand maître, comment il enchaîne son disciple, tout ça. Hein? Voilà, c'est exactement comme ça la philosophie. Voilà.
Et alors, pourquoi vous avez été attiré comme ça par le taïdo, par cette discipline? Et puis, racontez-nous en même temps ce que c'est ce taïdo. C'est quoi les variations avec le karaté? Qu'est-ce qui diffère? Et quels sont les principes un petit peu de cette discipline du taïdo?
le fondateur de Taïdo, il était karatéka à Okinawa, dans une île au sud du Japon. Il a vu beaucoup à la compétition les Japonais. Pour former un ceinture noire, il faut minimum 5 ans. Pour arriver à un bon niveau là, et 5 ans, vous envoyez cette ceinture noire là pour faire la compétition. Et à chaque fois, les Japonais, vous avez morphologie, sont tout petits. Ils sont tout petits, il y a 1m50, 1m60, c'est tout maximum. Et le championnat, c'est toujours avec les Américains, les Européens, c'est très très grand. Le gabarit est donc différent. Et du coup, il a réfléchi, mon fondateur de Taïdo, il a converti le karaté qu'il a enseigné en Taïdo. Donc pour moi, le Taïdo qu'il a pratiqué, c'est quelque chose qui s'appelle Genseryu. Gen, ça veut dire le temple. Se, ça veut dire maîtriser technique de la temple. Ryu, c'est l'école.
Donc c'était
Genseryu.
Une discipline pour donner des chances aussi à toutes les morphologies de d'être ensemble et que la différence de taille ne soit pas déterminante dans le rapport.
Ouais.
D'accord. Donc justement, on joue sur autre chose, on joue sur une mobilité, une forme de
justement,
technique, de mouvement.
Le karaté qui a converti en taïdo, qu'est-ce que c'est le taïdo? C'est vrai, c'est un nouvel art martial éclectique au niveau enfance. Mais au niveau pays scandinave, c'est très développé. Pourquoi? Parce que le japonais ne parle pas la langue française, premièrement. La plupart, ils parlent anglais. Donc, grâce à moi, je parle français. C'est pour ça que je suis allé au Japon 5 fois pour la formation, pour stage, tout ça, faire compétition, tout ça. Mais petit à petit, je ramène cette discipline. C'est moi qui a fondé cette discipline à Angers.
C'est vous qui avez amené cette discipline en France.
Voilà.
Et c'est vrai que, comme vous le disiez, pour tout, il y a toujours une question de traduction des choses. Et à un moment donné, il faut maîtriser la langue pour transmettre le savoir, en termes de taïdo ici, le savoir en France et le traduire du japonais au français.
Ouais. Cet art martial japonais, taïdo, pour moi, c'est vrai que c'est un nouveau art martial est basé sur la modification de l'axe du corps pour se défendre.
Du coup, vous l'enseignez ici à Angers, c'est ça, depuis ces années-là, depuis que vous avez parfait votre formation, une formation exigeante, on l'a dit. Donc après, vous avez créé la structure à Angers pour diffuser cette discipline, l'apprendre à des gens et former d'autres athlètes.
C'est pas si facile d'enseigner un art martial inconnu comme ça, parce que Taïdo, c'est pas connu au niveau en France. Il y a que le karaté, Sotokan, ou Chitoryu, etc. Mais Taïdo, il est pas connu du tout. Le maître.
Oui, ça reste assez confidentiel en nombre de licenciés, nombre de pratiquants.
La fédération française des arts martiaux, il connaît pas tout ça. Donc, même malgré que j'avais mon diplôme japonais, il reconnaît pas. Je peux pas valider mon diplôme japonais en diplôme français pour ouvrir un club, tout ça. Donc, toujours sous la protection, un autre professeur karaté est diplômé français karaté, quoi. Et petit à petit, c'est là que le ministère de jeunesse de sport, il est venu voir comment je enseigner, je fais des démonstrations, etc. C'est là que, en plus, je fais des compétitions et à chaque fois, je fais la publicité, tout ça. Et j'ai rapporté 4 médailles d'argent dans mon carrière. Voilà.
Dans des championnats européens,
championnat d'Europe, championnat international, senior, tout ça. Ouais, j'ai ramené 4 fois médailles d'argent. Donc, pour la ville d'Angers.
En tout cas, petit à petit, vous avez, eu une reconnaissance de votre art martial, de votre compétence, de votre. Capacité à l'enseigner, on est venu vous observer et on a reconnu ce savoir-faire.
Voilà. Ben, c'est vrai que je pense toujours le taïdo, c'est vraiment par rapport à la vie quotidienne. C'est ça, le grand maître qui m'a expliqué. Il dit, vous mettez votre vie et le taïdo face à face. Vous verrez un jour, vous réfléchissez, vous verrez, vous voyez la chose. Ils sont identiques, le taïdo et ta vie. C'est vrai que petit à petit, on s'est rendu compte que ça change. C'est pratique, les arts martiaux, c'est non seulement pour faire la, se défendre, c'est aussi pour la santé. C'est hyper important.
Quand vous dites le parallèle entre le taïdo et la vie, sa discipline sportive et la vie, ça veut dire quoi exactement?
Tout ce qu'on le matin on se lève, le soir on rentre. Et la journée, on a vécu les choses très variables, de haut et de bas, et de calme, de brutal, de toute colère ou calme, tout ça. Dans la journée, on a vécu tout ça. Et en taïdo, c'est pareil, action et réaction, tout ça, mouvement. Et puis, pourquoi il faut retourner au calme, tout ça, c'est là la liaison dans le truc.
Et dans la variété des moments que vous offre la vie, même à l'échelle d'une journée, comme vous le dites très bien.
Voilà.
Et le taïdo reflète ça, quoi. Des temps forts, des temps faibles, des joies, des peines, des chutes, des relèves, etc.
Voilà, c'est ça. Et en ce moment, le grand champion du monde, bien sûr, c'est un maître japonais. Il a eu 5 fois médaille d'or. Championnat du monde, championnat du Japon, tout ça. Et il crée beaucoup de... Il enseigne beaucoup à l'université, à Tokyo, tout ça, aux alentours de Tokyo. Et ils ont aperçu par un jeu, celui qui crée ce jeu-là qui s'appelle Tekken 8.
Un jeu vidéo.
Voilà. Et ce monsieur-là, il est venu voir le grand champion de taïdo. Il demandait, est-ce qu'il peut prendre la technique de taïdo pour mettre dans le jeu?
D'accord.
Ça fait depuis un an et demi, cette histoire-là. Et ils ont essayé de sortir le Tekken 8. La première fois, j'ai jamais joué ça. Je suis pas comme un jeune.
C'est ce que j'allais dire. Vous êtes mis au jeu vidéo, à la console,
non,
du coup.
Non, je suis nul. Et c'est mon fils que j'ai formé... depuis 40 ans.
Laurent, c'est ça?
Laurent, mon fils, maintenant, il est aussi gradé que moi, 5e Dan, en ceinture noire cette année. Donc, c'est lui qui a montré, il dit, papa, regardez, je te montre quelque chose incroyable, mais vrai. Les techniques de taïdo, il est dans le jeu vidéo. Quand j'ai vu ça, je dis, c'est pas possible. Et ils sont vendus au Japon millions de jeux.
Ah donc le taïdo est devenu beaucoup plus populaire.
Plus populaire au Japon. Il commence à venir en Europe maintenant. Ouais.
Et vous le ressentez à l'échelle du club ici à Angers?
Beaucoup de jeunes actuellement qui pratiquent le taïdo. Ouais.
Vous recevez combien de personnes aujourd'hui dans le club?
Aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine licenciés.
Donc de tous les âges, potentiellement.
Oui, tous les âges. Mais beaucoup davantage, trois quarts, c'est les jeunes de 8 ans à 15 ans.
Donc c'est votre fils, Laurent, aujourd'hui, qui enseigne au club?
Qui enseigne avec un autre disciple. Il s'appelle Cyril Brunet. Il est aussi 5e Dan. Tous les deux, il prend la relève.
Alors Marc, c'est bientôt la fin de ce voyage au pays du taïdo et de ce voyage du Cambodge, de ce voyage incroyable du Cambodge vers Angers. Avant de se quitter, une dernière question. Éventuellement, quand est prévu votre prochain voyage dans le pays où vous êtes né, au Cambodge?
Ma prochaine rêve, c'est de retourner au Japon. Mais le grand maître est décédé, mais tous les autres grands maîtres, ils sont là encore. Il m'attend. Ouais, je pense que je dois y aller. Dernière fois, visiter les maîtres. Ouais. Et puis, retourner à mon pays nostalgie pour voir quand même le changement du pays. Quoi.
Vous avez envie de programmer ce grand voyage.
Voilà, ça, c'est mon rêve.
On vous le souhaite, Marc, pour très vite. Merci beaucoup pour votre visite.
Au revoir.